Du mercantilisme au libéralisme. Le système mercantile se caractérisait encore par une certaine candeur catholique naïve. Il ne dissimulait en rien l'immoralité essentielle du commerce. Nous avons vu qu'il en dévoilait publiquement la basse cupidité. Pour lui, l'hostilité des nations pendant le XVIIIe siècle, la jalousie, le zèle mercantile étaient les conséquences nécessaires du négoce en général. L'opinion publique ne s'était pas encore humanisée. Il n'était pas nécessaire de dissimuler des faits qui découlaient de l'essence inhumaine et hostile du commerce même. Mais quand Adam Smith, le Luther de l'économie politique, soumit l'économie antérieure à la critique, la situation avait bien changé. Le siècle s'était humanisé, la raison avait prévalu, la moralité commençait à proclamer son droit éternel. Les traités de commerce extorqués, les guerres commerciales, l'isolement sauvage des nations ne choquaient pas trop le progrès de la conscience. L'hypocrisie protestante vint remplacer la candeur catholique. Smith démontre que l'humanité même a son origine dans le négoce. Le commerce ne doit pas être, ouvrez les guillemets, la plus abondante des sources de discorde et d'hostilité, fermez les guillemets. Il doit devenir, ouvrez les guillemets, un lien d'amitié et d'union entre les nations comme entre les individus. Fermez les guillemets. Par la force des choses, le commerce est avantageux à tous ceux qui s'y livrent. Smith a raison de le considérer comme humain. Il n'y a rien d'absolument immoral dans l'univers. Par un côté, le négoce lui-même rend hommage à la moralité et à l'humanité. Mais quel hommage ! Le droit du plus fort ? Le brigandage du Moyen-Âge se sont humanisés en devenant commerce. Et, à sa première période, caractérisé par l'interdiction de l'exportation d'argent, le commerce lui aussi s'est humanisé quand il est devenu le système mercantile. Maintenant, c'est ce dernier qui s'humanise à son tour. Il est naturellement de l'intérêt du négociant d'avoir de bonnes relations tant avec celui auquel il achète à bon marché qu'avec celui auquel il revend cher. Aussi est-il fort inintelligent pour une nation d'entretenir des sentiments d'hostilité chez ses fournisseurs et chez ses clients. Plus les sentiments sont amicaux, plus l'avantage est grand. Telle est l'humanité du négoce. La gloire du système de la liberté du commerce, c'est de faire hypocritement servir la moralité à des buts immoraux. N'avons-nous pas renversé la barbarie des monopoles, s'écrient ces pharisiens ? N'avons-nous pas porté la civilisation dans les régions les plus reculées ? N'avons-nous pas fait fraterniser tous les peuples ? N'avons-nous pas diminué le nombre de guerres ? Oui, vous l'avez fait, mais comment ? Vous avez anéanti les petits monopoles pour permettre l'unique monopole fondamental, la propriété, d'agir plus librement et avec moins d'entraves. Vous avez civilisé les extrémités de la terre, mais c'est pour ouvrir des nouveaux champs d'action à votre basse cupidité. Grâce à vous, les peuples sont des frères. Mais c'est une fraternité de voleurs. Vous avez diminué le nombre de guerres, mais c'est pour gagner davantage durant la paix. C'est pour porter à son dernier degré l'hostilité entre les individus et les guerres sans honneur de la concurrence. Quand donc avez-vous agi par pure humanité, par la conscience de l'inexistence de l'antagonisme entre l'intérêt général et l'intérêt particulier? Quand vous êtes-vous montré moraux, sans y être intéressé? Sans nourrir au fond du cœur des motifs immoraux et égoïstes? En dissolvant les nationalités, l'économie libérale fit de son mieux pour généraliser l'hostilité, pour convertir l'humanité en une horde de bêtes féroces. Les concurrents sont-ils autre chose? Qui se dévorent mutuellement parce que les intérêts de chacun sont égaux à ceux de tous les autres. Après ce travail préliminaire, il ne restait plus à l'économie libérale qu'un pas à faire pour atteindre son but. Il lui fallait encore dissoudre la famille. Sa belle invention, le système de la fabrique, vint à son aide. Ce mode de travail détruit le dernier vestige de l'intérêt commun, la communauté familiale des biens. La famille, en Angleterre du moins, est en pleine dissolution. L'expérience quotidienne montre que les enfants, dès qu'ils sont susceptibles de travailler, c'est-à-dire dès qu'ils atteignent l'âge de 9 ans, dépensent pour eux-mêmes leur salaire, considèrent le foyer familial comme une simple auberge et abandonnent à leurs parents une certaine somme pour la nourriture et le logement. Comment en serait-il autrement ? L'isolement des intérêts, qui est la base de la liberté du commerce, peut-il conduire à d'autres résultats ? Un principe, une fois mis en activité, va de lui-même jusqu'à ses dernières conséquences, que la chose plaise ou non aux économistes. Mais l'économiste ne sait pas lui-même quelle cause il sert. Il ne sait pas qu'avec tout son raisonnement égoïste, il ne forme qu'un maillon dans la chaîne du progrès général de l'humanité. Il ignore qu'en favorisant la dissolution de tous les intérêts particuliers, il ne fait qu'ouvrir la voie au grand bouleversement vers lequel va ce siècle, la réconciliation de l'humanité avec la nature et avec elle-même.